des villes et des hommes, une émission proposée en partenariat avec Eiffage.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette 12e émission des villes et des hommes consacrée au développement durable dans les métiers du BTP. Alors aujourd'hui, un sujet bien caché sous les diverses facettes opérationnelles de nos métiers, mais qui devient essentiel et même stratégique à l'heure de l'exigence d'un développement durable, ce sont les achats. Alors, quand on évoque la fonction d'acheteur, tout le monde pense savoir de quoi nous parlons. Pourtant, la réalité est beaucoup plus complexe, technique, professionnalisée et actuellement en plein boom, si je puis dire, en pleine évolution. Une évolution rapide et surtout profondément marquée par la prise en compte des enjeux environnementaux, carbone et biodiversité, mais également précautions sociales et vigilance éthique. Alors, pour en parler aujourd'hui avec nous, nous avons le grand plaisir d'accueillir Natacha Tréhant. Natacha, vous êtes docteur et maître de conférence à l'Université de Grenoble. Alpes. Vous êtes enseignante-chercheuse et auteure de nombreuses publications de recherche, mais également d'articles dans la presse économique. Jean-Luc Barras, alors Jean-Luc, vous êtes directeur des achats du groupe Eiffage, mais vous êtes également président du Conseil national des achats. Alors, première partie de notre émission, la mise en perspective de la fonction acheteur.
Des villes et des hommes, le débat, première partie.
Alors, je le disais en introduction, les achats sont une fonction relativement ancienne dans l'entreprise. Or, aujourd'hui, on en parle énormément dans le cadre des stratégies de développement durable des acteurs privés. Alors, Jean-Luc, première question, est-ce que vous pourriez nous résumer la carte d'identité de la fonction achat depuis sa naissance jusqu'à la première grande révolution du métier, c'est-à-dire à peu près au moment des chocs pétroliers ?
Oui Valérie, je suis plus un acteur aujourd'hui qu'un historien de la fonction achat, mais effectivement, on peut identifier quelques grandes périodes. Il y a d'abord eu un gros travail qui a été fait pendant les 30 Glorieuses dans cette économie de production. Et d'ailleurs, on parlait d'une organisation des approvisionnements et on ne parlait pas d'achat encore. Elle travaillait d'abord pour réduire les files d'attente et éviter les pénuries. C'est d'ailleurs dans ce contexte qu'est né le Conseil national des achats, qui s'appelait la CELAF et qui a partagé les bonnes pratiques en vue de construire les premières chaînes d'approvisionnement manufacturière qui servait cette économie de production. Puis il y a eu les chocs pétroliers des années 70, avec leur cortège de conséquences, la croissance ralentie avec une inflation des prix, des taux d'intérêt élevés, et surtout une concurrence qui est devenue de plus en plus accrue. Le rapport entre l'offre et la demande s'est inversé, et la fonction achat s'est révélée comme un acteur essentiel de la performance des entreprises pour servir cette compétitivité dans un monde hyper concurrentiel, en tout cas qui devenait très concurrentiel.
Merci Jean-Luc. Alors Natacha, c'est donc avec la mondialisation qu'on constate une réelle professionnalisation de cette fonction ?
Alors en fait, c'est pas tant la mondialisation que les crises qui sont issues de la mondialisation, qui sont des catalyseurs en fait de la professionnalisation de la fonction achat. Et Jean-Luc a totalement raison, la crise des années 70, donc les crises pétrolières, c'est vraiment le premier grand catalyseur de la reconnaissance de la fonction achat, parce que les directions générales vont demander à la fonction achat de rétablir en fait la performance de l'entreprise. Donc il y a une vraie réflexion à la fois donc effectivement sur la réduction de coûts, mais surtout il y a une réflexion sur le recentrage sur le cœur de métier pour améliorer la rentabilité des capitaux engagés. Et donc vous avez beaucoup d'entreprises qui se disent, est-ce que cette activité qui jusqu'à présent a été internalisée, est-ce qu'elle est cœur de métier pour mon entreprise ? Prenons l'exemple des constructeurs automobiles. Pendant très longtemps, ils forgeaient leurs pièces, ils découpaient leurs pièces en interne. Après justement fin des années 70, début des années 80, ils se sont dit, mais en fait c'est pas ce qui est cœur de métier pour nous. Donc ils l'ont externalisé. Dès lors que vous externalisez, vous achetez. Et ce qui fait qu'en fait c'est un abus de langage de dire que ce sont des constructeurs automobiles. Oui. Aujourd'hui ce sont en fait des designers, des concepteurs et des assembleurs. Quand on regarde la part achat, juste pour que vous ayez une idée, la part achat dans l'industrie, aujourd'hui, on est plutôt autour de 60% du chiffre d'affaires dans l'automobile, dans l'aéronautique, et c'est pareil aussi dans le BTP. Donc c'est vraiment cette crise, cette première crise qui est la plus significative.
Et quid de la crise financière début des années 2000 ?
Ensuite, effectivement, il y a cette crise financière. Cette crise financière, elle est liée en fait, c'est la crise de l'explosion de la bulle Internet. Et l'explosion de la bulle Internet, vous êtes d'accord avec moi, ça a beaucoup plus touché le secteur tertiaire, les banques, les assurances, beaucoup de start-up à l'époque qui étaient dans ce domaine-là, et aussi tout ce qui est opérateur télécom. Et ce qui a en fait incité aussi le développement de la fonction achat dans le domaine tertiaire. Et c'est là où on voit apparaître les premières grandes directions achats dans le domaine tertiaire. Fin des années 2000, c'est la direction achat du groupe La Société Générale qui est créée. C'est créé en 2001 chez AXA, c'est créé en 2003 chez France Télécom. Donc on voit là à nouveau que c'est une crise qui a été un catalyseur de la reconnaissance des achats dans le tertiaire. Et puis, il y a aussi la fonction publique,
et oui,
qu'il ne faut pas oublier, on est d'accord. Et là, dans la fonction publique, en fait, c'est la crise de la dette publique. Et en France, vous en souvenez, il y avait la RGPP, la Révision Générale des Politiques Publiques de 2007, où l'État français a dit « c'est plus possible, il faut arrêter ces dépenses gigantesques au niveau, il faut limiter en tout cas ces dépenses gigantesques au niveau de l'État ». Et du coup, c'est comme ça qu'on a créé en fait le service des achats de l'État en 2009.
Très bien. Alors, ce que vous décrivez, c'est une fonction qui est quand même quasiment uniquement axée sur la réduction des coûts, l'optimisation économique.
Alors, vous avez raison. Historiquement, vous avez raison, Valérie. C'est comme ça que la fonction achat s'est développée. Mais juste pour vous donner un exemple, on connaît tous, en fait, le directeur achat Ignacio Lopez, qui était un directeur achat, un vrai cost killer hein, chez General Motors. Jean-Luc le connaît très bien en tant que directeur achat.
Et brièvement chez Volkswagen.
Et tout à fait. Et en fait, alors lui, il a réalisé énormément d'économies pour l'entreprise. Il a pressuré les fournisseurs, etc. Sauf qu'on peut légitimement penser que c'est ce qui a amené en fait General Motors à sa faillite en 2009. Pourquoi ? Parce qu'en pressurisant des fournisseurs, vous perdez en fait l'innovation des fournisseurs, vous perdez la qualité chez les fournisseurs. Et il y a des études qui sont très intéressantes, qui s'appellent Perspective Planning, qui sont publiées tous les ans en fait, pour montrer la qualité des relations entre les fournisseurs et les constructeurs dans le domaine automobile aux États-Unis. General Motors arrivait toujours en dernier. Grosso modo, General Motors, c'était le client ONI.
Dont on ne voulait pas.
Exactement, vous avez totalement raison. Alors que Toyota arrivait en premier. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie en fait que lorsque vous avez une relation de qualité et que vous êtes un client préférentiel, alors le fournisseur va être beaucoup plus volontaire pour vous donner de l'innovation à vous en priorité.
Oui, vous libérez la parole en fait, le dialogue
exactement.
Est très fructueux.
Et en cas de pénurie, c'est la même chose. En cas de pénurie, le fournisseur va être beaucoup plus incité pour vous livrer vous en priorité. Et là, c'est la reconnaissance de la fonction achat dans toute sa dimension par rapport au management de la relation fournisseur et l'importance du management de la relation fournisseur.
Très bien.
Et la dernière crise, c'est la crise Covid. Et là, la crise Covid de 2020, ce qu'elle a amené en fait, c'est une reconnaissance très importante de la fonction achat par rapport à toutes ces dimensions durables et responsables. J'ai pas dit que ça n'existait pas avant, mais il y a véritablement, c'était un catalyseur, un accélérateur.
Et puis surtout, le grand public a découvert.
Tout à fait.
A découvert que les molécules de synthèse, par exemple, étaient fabriquées en Chine et
exactement.
Que nous avions perdu cette industrie sur le sol européen. Alors, il y a donc un avant et un après-crise hein, dans ces métamorphoses de la fonction achat. Jean-Luc, j'ai envie de vous poser une question un petit peu provocante. Est-ce que vous êtes un cost-killer repenti, Jean-Luc ?
Probablement. Il faut bien comprendre en fait d'où l'on part, parce que la mondialisation économique, elle était drivée par la performance financière. Et les acheteurs et la mission des achats s'inscrivaient totalement dans ces perspectives-là. C'était avant tout structurer une supply chain la plus économique possible, au service de la performance des entreprises et en même temps de servir une croissance à tout prix, quoi. Et c'était important de structurer ça. La fonction achat, d'ailleurs, y a développé une véritable excellence opérationnelle dans le suivi des indicateurs, dans les outils qu'elle a développés, dans les processus qu'elle a déployés. Et indéniablement, la professionnalisation des achats, elle est fille de cette mondialisation de l'économie qu'on connaît aujourd'hui.
Oui, mais on va pouvoir s'en servir finalement, cette professionnalisation,
c'est
la réorienter sur nos enjeux RSE.
Oui, c'est tout l'enjeu actuel, c'est comment exploiter toute cette capacité à conduire, à performer, en intégrant aujourd'hui de véritables objectifs RSE. Capitaliser ce professionnalisme pour comprendre les enjeux actuels des entreprises et de l'économie. Et ça, effectivement, c'est la fin du cost-killing, soyons honnêtes, tel qu'on l'imaginait jusque-là. Celui qui était tourné vraiment vers les low-cost countries, celui qui était tourné vers des réductions permanentes de coûts.
Je vous interromps, Jean-Luc. Quand on a préparé cette émission, vous m'avez parlé de ça. Vous m'avez dit, quand on était un jeune acheteur, il fallait avoir, dans les années 90, une expérience de low-cost country. Vous pouvez nous en dire un mot ?
Alors, c'est sûr, on voyait les CV et on le mettait. Enfin, ce qu'on avait effectivement, ce qu'on avait torturé, ce qu'on avait exporté, c'était mis en avant. Et effectivement, on cherchait cette performance-là. C'était une performance opérationnelle. C'est une connaissance
aujourd'hui,
de ces marchés-là.
Aujourd'hui, c'est un peu ringard. Si on dit, oui, j'ai une super expérience de low-cost country, est-ce que circuit court, est-ce que partenariat stratégique, innovation avec les fournisseurs, c'est pas plus vendeur aujourd'hui.
Ah non, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, on n'est plus dans la même approche systémique de la performance et que, en tout cas, par performance, on entend bien de nouvelles choses. C'est sûr qu'aujourd'hui, on va parler probablement, peut-être qu'on parlera de carbon killer, et ça serait parfait.
Oui.
Quoi. Parce que ça voudrait dire qu'effectivement, on valorise vraiment l'acheteur qui est capable de créer de la valeur à travers les enjeux de la RSE. C'est probablement vers là que se tourne et on sait bien qu'aujourd'hui, la difficulté, d'ailleurs, c'est de trouver ce type d'acheteur-là.
Merci. Alors, Natacha, on vient de l'évoquer. Finalement, la mondialisation tous azimuts a nous a mené à des excès. À partir de quand estimez-vous que ces pratiques et donc les excès qui en découlaient ont vraiment été réinterrogés ?
Alors, avant de répondre, juste un rappel. On associe souvent, je rebondis sur ce que dit Jean-Luc par rapport au low-cost country. La Chine est rentrée dans l'OMC en 2001. Donc en fait, ça fait véritablement depuis 20 ans qu'il y a eu aussi ce mouvement très fort justement vers notamment l'Asie. Et cette mondialisation, elle a eu pour effet une fragmentation des chaînes de valeur, avec une complexification bien sûr des chaînes de valeur, et puis bien sûr tous les excès qui sont des problématiques sociales, environnementales, etc. Ça c'est évident. Juste un exemple, il y avait une étude de Wire sur l'iPhone 6S qui disait en fait, l'iPhone 6S il a fait 800 000 km et il a traversé 3 continents avant d'arriver entre vos mains. Enfin, c'est quand même assez impressionnant. Alors maintenant, pour répondre à votre question, à partir de quand véritablement est-ce que les excès ils ont été interrogés ? Pour moi, il y a deux grandes périodes clés. La première période, c'est à partir du moment où, pour les entreprises, la logique de soft law, c'est devenu une logique de hard law. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la loi, en fait, elle impose des contraintes très fortes aux entreprises. Et par rapport à ça, des contraintes au niveau, justement, de ces critères qui sont les critères environnementaux, sociétaux et puis aussi de gouvernance.
Alors Natacha, je vous interromps. Moi, j'ai connu l'arrivée de la nouvelle loi régulation économique de 2002, qui était juste un début et qui ne s'appliquait qu'aux sociétés cotées. Quel est votre diagnostic, si je puis dire, sur la pression réglementaire depuis cette époque ?
Alors, c'est un signal très fort, la NRE. Par contre, si vous voulez, pour moi, c'est ce que vous dites. Le problème, c'est que ça ne se limite qu'aux entreprises cotées. Or, pour avoir un véritable impact global, il faut que ça englobe le maximum d'entreprises possibles. Donc pour moi, il y a vraiment une première date clé en France, c'est 2017. Parce qu'en 2017, c'est la mise en application de 3 lois différentes qui vont toutes dans ce sens-là. La première, c'est l'obligation de déclaration de performance extra-financière. Et là, c'est les entreprises cotées et non cotées. Pour faire simple, c'est grosso modo au-dessus de 500 personnes. Donc c'est déjà beaucoup plus englobant,
bien sûr.
D'accord ? Et on oblige les entreprises justement à déclarer qu'est-ce qu'elles font en termes justement social, environnemental, en termes sociétal, etc. Donc ça c'est vraiment une première avancée. De la même façon, c'est la même année où il y a la loi relative sur le devoir de vigilance à travers l'ensemble de la planète. On en reparlera. Et puis la loi Sapin 2 qui va réguler aussi à un moment donné les problématiques de corruption. Donc ça c'est vraiment une première date clé pour moi.
Très bien. Alors, on y reviendra. Je rappelle juste qu'on a une émission précédente sur tous ces sujets que les auditeurs peuvent retrouver sur le site internet de Radio Immo. Alors, il y a une deuxième période clé, c'est la crise Covid.
Voilà.
Vous l'aviez déjà évoqué tout à l'heure, mais ça a été aussi une crise dans tous les sens du terme, mais aussi un grand coup de projecteur sur les pratiques achat.
Tout à fait. Ça a été surtout une prise de conscience. Alors, autant il y avait quand même une prise de conscience déjà qui était antérieure, c'est juste un catalyseur cette crise Covid, d'accord ? Mais il y a quand même une prise de conscience de la part aussi du grand public de cette fragmentation des chaînes de valeur et de la dépendance de la France par rapport à des fournisseurs qui sont localisés dans des pays très lointains. D'un seul coup, on découvre que 60 à 80% des principes actifs des médicaments sont produits par des fournisseurs chinois. Et là, bien évidemment, les directions générales, elles se retournent vers les directions achats en leur disant, mes chers acheteurs, il faut impérativement sécuriser les supply chains. Et puis, c'est là où véritablement, pour la première fois, de façon aussi importante, je vois des interrogations sur la relocalisation de façon aussi importante, mais aussi, pourquoi pas, de la réinternalisation.
Alors, Jean-Luc, je me tourne vers vous. Les achats, ils sont quand même censés maîtriser un large panel de risques qui va bien au-delà des risques habituels comme justement la sécurisation des approvisionnements, les risques qualité, les risques géopolitiques. Finalement, c'est toute une transformation qui est nécessaire de la direction des achats qui va embrasser, si je puis dire, la maîtrise de risques pluridisciplinaires.
Oui, pour prendre en compte tous ces nouveaux risques, il y a une transformation nécessaire, ça c'est sûr. Pour moi, peut-être ce qu'elle traduit, elle se traduit très bien dans la relation fournisseur. Pour un groupe comme Eiffage, par exemple, c'était effectivement ce qui nous a conduit à prendre en main différemment la relation fournisseur, à travailler, à clarifier des engagements réciproques et des engagements qui ne soient pas ceux simplement de servir à court terme des projets ou des performances économiques, mais celles clairement qui engagent l'entreprise sur le moyen et le long terme et notamment sur de la décarbonation, sur d'autres positionnements de l'achat local, voilà, toutes ces dimensions-là ont été prises en charge. Et d'ailleurs, les risques sont quand même à manager, sont de nature très diverse, et ils ont demandé à ce que les acheteurs fassent appel à un grand nombre d'expertises dans l'entreprise. Ça s'est élargi. Effectivement, il y a besoin du soutien des gens, des directions techniques, des directions du développement durable, etc. Et ça, c'est peut-être nouveau. Et d'ailleurs, ça se sent dans les acheteurs et dans les profils dont on a besoin, puisqu'on a besoin de gens qui soient capables d'avoir tout le savoir-être nécessaire pour être capables d'être les animateurs de toute cette réflexion.
Donc transversalité et savoir-être. Donc finalement, les directions achats jouent un rôle nouveau, intègrent les nouveaux challenges liés aux exigences, bien sûr économiques, mais également sociales, environnementales, d'un développement durable qui soit concret, qui soit inclusif, qui soit mesurable et mobilisateur. Et puis, je retiendrai pour cette première partie le terme de décloisonnement de la fonction achat. Deuxième partie de notre émission, métamorphose et décloisonnement de la fonction achat.
Des villes et des hommes, le débat, deuxième partie.
Alors, cette métamorphose de la fonction achat a été influencée par la prise de conscience des acteurs publics et privés, qui s'est traduite ensuite dans une réglementation française beaucoup plus exigeante, Natacha nous le disait. Et puis, on a tous en tête aussi des scandales mémorables qui ont fortement impressionné aussi le grand public. Des scandales liés à l'opacité de la chaîne de valeur, une opacité dont se contentaient avantageusement les donneurs d'ordre. Je citerai à titre d'exemple, tout le monde a en tête le drame de l'usine du Rana Plaza au Bangladesh en 2013, qui a fait plus de 1000 victimes et surtout qui a mis à nu un système de relations féroces et totalement inéquitables entre donneurs d'ordre et sous-traitants. Donc il y a eu une réaction, à juste titre, des législateurs qui ont créé des obligations de vigilance des donneurs d'ordre en termes de risques éthiques, sociaux, environnementaux, portés par toute la chaîne de sous-traitance et de fournisseurs, y compris les plus lointains. À commencer par la très importante loi française de mars 2017, dont parlait Natacha tout à l'heure, sur le devoir de vigilance des entreprises donneurs d'ordre, ce qu'on appelle le devoir de vigilance des sociétés mères, pour reprendre le titre exact. Donc actuellement, c'est la loi la plus exigeante en Europe. Sur ce sujet, elle sert un peu de modèle à la future directive européenne sur le devoir de vigilance qui est censée harmoniser les pratiques en Europe. Et le but, c'est vraiment la transparence et la responsabilité des donneurs d'ordre qui ne peuvent pas se défausser sur un sous-traitant ou le sous-traitant d'un sous-traitant principal. Natacha, vous êtes d'accord? Vous êtes enthousiaste à l'idée de cette loi et de la future directive européenne?
Alors, enthousiaste, oui, mais par contre, je voudrais peut-être repréciser deux choses par rapport à la philosophie de la loi française déjà, avant de voir un peu les limites et puis les perspectives au niveau européen. La philosophie de la loi française était pour limiter deux choses. La première chose, c'est qu'en fait, les donneurs d'ordre ne vérifiaient pas toutes les conditions qui étaient conditions de travail, de sécurité, de santé, de liberté fondamentale chez, et aussi environnementale, chez leurs sous-traitants. Et donc, la loi, elle nous dit, vous avez une obligation de mettre en place des dispositifs d'identification et de prévention de ces risques. Et bien sûr, les directions générales se retournent vers les achats pour mettre en place ces dispositifs. Le deuxième point, c'est qu'en fait, vous en souvenez, au Rana Plaza, on a retrouvé des étiquettes dans les décombres.
Absolument.
Et les marques, en fait, ont dit, ah, mais non, mais nous, on ne savait pas que en fait, c'était produit chez ce fournisseur-là. Grosso modo, on ne savait pas, donc on n'est pas responsable. Ça, c'est la problématique, alors qui est très courante en Asie. C'est ce qu'on appelle à un moment donné des cascades de sous-traitance, où vous confiez en fait une activité à un fournisseur qui va la redonner à un autre, Mais, et là, la loi nous dit, vous ne pouvez pas en fait vous dédouaner par rapport à ça. C'est pour ça que ça s'appelle la loi sur le devoir de vigilance de la chaîne d'approvisionnement. C'est la notion de chaîne qui est importante. C'est tout au long de la chaîne d'approvisionnement, des fournisseurs qui est vraiment importante. Par contre, quand on regarde véritablement...
Oui, j'allais vous poser la question, il n'y a aucune limite à cette loi.
Si, voilà, c'est que c'est très bien, je suis ravie. Hein, en 2017, quand il y a eu ça en place, j'étais ravie. Mais en fait, vous rendez compte que ça reste, il y a deux grandes limites. Ça reste en fait une obligation de moyens et non de résultats. Et puis, c'est limité aux très grandes entreprises. En fait, c'est des entreprises françaises de 5000 salariés sur le sol national. Et si on prend compte aussi leurs filiales, c'est 10 000 salariés. Donc, c'est les très grandes entreprises. Alors, certes, on a inspiré aussi les Allemands. C'est très bien. Pour une fois, c'est nous qui inspirons les Allemands. Je suis ravie. Donc, cet été, ils ont mis en place, eux aussi, une loi sur le devoir de vigilance.
Alors, et l'Europe, j'ai envie de vous dire, on sait que la France présidera l'Europe dans la présidence tournante au deuxième semestre 2022. L'Europe s'est emparée du sujet, il y a une directive qui est préparée, qui va utiliser le retour d'essence française. Alors à la fois ce qui est bien, puis aussi ce qui est moins bien.
Ah, tout à fait.
Alors, contourner ce qui est moins bien.
Voilà. Donc la proposition en fait, du Parlement européen de mars 2021, il y a des choses qui sont très intéressantes justement. C'est qu'elle va étendre le périmètre des entreprises. Donc ça, je trouve que c'est vraiment le premier point qui est le plus important. Plus il y aura d'entreprises qui seront concernées, plus à un moment donné, il y aura des effets positifs. Le deuxième point, c'est que ça va être beaucoup plus, il y aura plus de sanctions. On retrouve la problématique de la hard law, on est d'accord. Il y aura des condamnations en justice qui vont être prévues. Les victimes pourront aussi demander réparation. Donc on voit que véritablement, il y a une volonté d'aller sur une approche qui est beaucoup plus contraignante et beaucoup plus large, et qui est beaucoup plus bénéfique au final.
Très bien. Alors Jean-Luc, je me tourne vers vous. Quand on passe l'équivalent de plusieurs milliards d'euros de commandes par an, c'est votre cas, comment se saisit-on de ce sujet protéiforme ?
En réalité, moi, ce que je voulais souligner par rapport à ce que Natacha disait, c'est que c'est une formidable opportunité pour les achats. Parce que c'est l'occasion, effectivement, de placer la relation inter-entreprise et la relation fournisseur au centre du jeu. Parce que tout ce devoir de vigilance nécessite une connaissance accrue. Effectivement, on part en profondeur dans la chaîne d'approvisionnement. Et aujourd'hui, pour nous, cette professionnalisation, elle s'est traduite notamment par des investissements dans des outils. Et on a des outils collaboratifs qui sont de véritables plateformes digitales qui permettent un échange et qui sont ouvertes aux fournisseurs, ouvertes aux expertises internes, qui permettent un travail décloisonné. Et vous le disiez tout à l'heure, Valérie, c'est une des clés. Et ces systèmes d'information, ils consolident beaucoup d'expertise. Et effectivement, on a beaucoup parlé, ça fait 20 ans que dans les achats, on parle de SRM, Supplier Relationship Management, c'est-à-dire de driver toute cette relation. Et bien là, on a maintenant des outils qui nous permettent d'aller très loin dans cette partie-là. Et ça, c'est évidemment très intéressant.
Alors, aller très loin, mais si je puis me permettre, je rebondis aussi sur ce que disait Natacha. On a une obligation de moyens et pas de résultats, mais en même temps, on n'a pas de pouvoir de police. Pas non plus facile d'aller investiguer et parfois, de bonnes choix, on peut se faire avoir aussi.
Enfin, moi, ça mériterait débat, mais je ne suis pas un expert juridique là-dessus, mais il y a une obligation de résultat aussi. Je veux dire, si demain, une entreprise se fait attraper dans une situation délicate, on demandera des comptes au patron des achats. Il pourra dire qu'il a surveillé, mais pas suffisamment, ou en tout cas qu'il n'est pas allé assez loin, le résultat comptera. C'est-à-dire qu'il y a quand même une obligation de résultat dans l'image des entreprises, dans la cohérence qu'elles veulent montrer. Elles sont obligées d'être performantes là-dessus et obligées d'avoir des résultats, et en tout cas de ne pas avoir de contre-résultats, parce que là, c'est catastrophique.
Très bien. Alors, vous parliez de décloisonnement. Alors finalement, achat, RSE, conformité, audit, gestion des risques, et puis aussi l'informatique qui crée les outils dont vous avez besoin, la communication qui permet de les partager en interne comme avec les parties prenantes externes, tout converge. Ça, c'est quand même très important. On le voit dans d'autres, avec le développement durable. Le développement durable, c'est sans doute le règne de la transversalité de toute façon. Alors, il y a un autre type d'acteur qui vient bouleverser le rôle des achats. C'est un phénomène relativement récent dont nous avions parlé dans une émission précédente, c'est la montée en puissance des agences de notation extra-financière qu'on chiffre à peu près aux années 90 avec une forte montée en puissance dans les années 2000. Justement, réaction aux excès de la mondialisation. Alors, les méthodologies d'évaluation des agences de notation extra-financière incluent toutes, Natacha, un volet achat responsable. Quelle est votre vision sur le rôle, mais aussi les limites de ces agences de notation extra-financière ?
Alors, il y a quand même un certain nombre de limites. Bon, c'est déjà bien que ça existe et c'est déjà bien qu'elles incluent un volet achat responsable. D'accord. Par contre, la principale limite, c'est que il y a aucune méthodologie et aucun critère qui sont harmonisés, partagés au niveau mondial entre l'ensemble des agences. Pour faire simple et un peu, de façon un peu caricaturale, il y a autant de méthodologies que d'agences. Donc c'est quand même compliqué pour les entreprises. Là-dessus, on peut saluer quand même l'approche de l'Europe par rapport à la taxonomie, qui justement propose un cadre qui est très structurant et qui permet à un moment donné, notamment pour les organismes financiers, de dire, ben voilà, une activité, un certain nombre de critères, et cette activité elle peut être considérée comme étant bas carbone, transitoire, habilitante.
Alors, on reparlera de la taxonomie, Natacha. Juste un point sur les agences de notation extra-financière. Moi, j'avais repéré l'année dernière une étude économique du MIT de Boston qui montrait que le taux de convergence des résultats, donc des évaluations des notations financières, est proche de 1, donc 0,94. Ça veut dire que si on est très bien noté par une agence financière, il y a toutes les chances qu'on le soit très bien également par une autre agence financière. Mais pour l'extra-financier, malheureusement, le taux de convergence est inférieur à 0,5. Ça veut dire que c'est quand même un petit peu... C'est ce que vous disiez, les méthodologies sont toutes différentes en fonction des agences de notation et l'harmonisation serait quand même bienvenue, tant sur les définitions des critères que sur les périmètres, pour pouvoir vraiment comparer. Donc, Natacha, je reviens vers vous. Vous nous parliez des points positifs qu'il faut créditer à l'organisation de l'Union européenne. Alors, il y a un point positif qui concerne spécifiquement les achats. Vous vouliez nous parler du nouveau référentiel Global Reporting Initiative 4.
Tout à fait. Alors, en fait, ce référentiel est quand même, bon, existe depuis un certain temps. Par contre, là, pour le coup, il a le mérite d'être partagé, d'être plutôt reconnu au niveau mondial par rapport à un certain nombre d'entreprises et par rapport à des grandes organisations, des grandes ONG. Quand on regarde ce reporting, on se rend compte que la fonction achat, elle impacte en fait à hauteur de 45% sur l'ensemble des critères qu'on appelle les critères spécifiques. Et surtout, le point qui m'intéresse, c'est de montrer que ça va bien au-delà simplement des simples audits RSE des fournisseurs. La vision que l'on a de la fonction achat, c'est « Ah bah vous êtes là pour aller vérifier que vos fournisseurs respectent bien un certain nombre de critères ». Mais c'est très déresponsabilisant, si vous voulez, pour la fonction achat. Ça veut dire « bah vous déléguez tout ça aux fournisseurs ». Or, justement, il y a des points sur lesquels la fonction achat peut avoir un rôle très important. Je prends l'exemple notamment sur l'énergie verte. La fonction achat, elle est au cœur de ce qu'on appelle les PPA, ce sont des Power Purchase Agreements, qui sont des engagements de très longue durée, des contrats de très longue durée sur des énergies vertes. Decathlon a mis ça en place, ils ont vraiment un objectif d'aller justement vers des contrats d'énergie et d'électricité d'origine renouvelable, 100% origine 2026. Donc c'est très positif. Un autre exemple, c'est le rôle des achats dans la diminution des matières plastiques, par exemple. Et là, on retrouve ce que vous disiez sur le décloisonnement. C'est-à-dire, je prends l'exemple d'Yves Rocher, c'est la direction des achats d'Yves Rocher, en partenariat avec le marketing, en partenariat avec la production, qui ont décidé justement de diminuer les matières plastiques dans leurs emballages. Et on retrouve cette notion de décloisonnement, et en plus, impact à un moment donné écologique et impact sur la notation financière.
Absolument. Vous avez raison sur les PPA, d'ailleurs, notre direction des achats est en train de négocier, nous, d'ici fin 2023, 100% d'électricité d'origine renouvelable.
Alors, je veux pas louer l'EFAGE, mais malgré tout, je regarde beaucoup de rapports extra-financiers d'entreprise. Si vous regardez en fait le rapport sur le climat d'EFAGE, vous notez en fait que la contribution des achats est très largement soulignée. Et oui, c'est une réalité. Et je trouve que c'est un très bon exemple.
Oui, merci. C'est du pragmatisme qui nous a conduit.
Exactement.
À ça.
Exactement. Mais ça prouve à nouveau l'action très positive des achats.
Et c'est pas fini.
c'est vous qui me le dites, après je vous laisse.
Alors justement, nous avons eu le plaisir d'échanger avec Jean-François Thaler, qui est le cofondateur et l'actuel coprésident d'EcoVadis, qui est une plateforme d'évaluation de la performance RSE des fournisseurs.
Pierre-François Thaler, bonjour.
Bonjour Nicolas.
Une première question, vous êtes un ancien acheteur et vous avez cofondé EcoVadis en 2007. Qu'est-ce qui vous a incité à créer une agence de notation extra-financière dédiée à la relation client-fournisseur ?
C'est parce que, après avoir travaillé 20 ans dans les achats, j'étais à la fois passionné par les achats, le potentiel de transformation économique à part des achats. Mais je me suis dit, au-delà des économies de coûts, des réductions des risques, on peut faire quelque chose qui a un peu plus de sens. Voilà, et en intégrant la dimension environnementale et sociale, donc en utilisant le levier incroyable des achats, mais à des fins positives ou à des fins de transformation environnementale et sociale.
Bon, aujourd'hui, la notion d'achat responsable est devenue courante. Selon vous, quels en sont les quelques fondamentaux de cette notion ?
Alors, les achats responsables, ça veut dire des choses relativement différentes pour personnes différentes. Pour moi, c'est deux choses. C'est acheter des produits verts auprès de fournisseurs responsables. Voilà, il y a à la fois l'axe produit. Est-ce que le produit qu'on achète a des caractéristiques durables ? Et il y a la notion auprès de qui achète-t-on ce produit ou ce service ? Et est-ce que le fournisseur, est-ce que l'entreprise est responsable, c'est-à-dire dans ses pratiques sociales dans sa propre chaîne d'approvisionnement. Voilà, c'est arrivé à combiner ces deux dimensions, l'axe produit l'axe social. Et ça se développe de plus en plus, en France notamment, parce que c'est là où tout a commencé quelque part, mais maintenant c'est en train de devenir une pratique qui se généralise dans le monde entier. Voilà, et comme a dit, on travaille maintenant dans 150 pays.
Eh bien écoutez, merci beaucoup Pierre-François Thaler. Je rappelle que vous êtes le cofondateur et le co-PDG d'EcoVadis. Mille merci d'avoir accepté notre invitation pour cette nouvelle émission des Villes et des Hommes.
Alors, certes, comme pour toutes les notations, il s'agit d'abord d'un outil d'évaluation. Nous avons entendu EcoVadis. Alors, c'est un peu une photographie, un instant T de votre fournisseur, mais ça démontre aussi, encore une fois, le décloisonnement tous azimuts et le fait que les enjeux sociaux et environnementaux qui secouent nos sociétés aujourd'hui, à juste titre, font partie intégrante du quotidien, désormais, de la fonction achat. Alors, on va maintenant parler des enjeux carbone qui sont au cœur de cette stratégie, puisque Jean-Luc, les entreprises veulent absolument, elles y sont contraintes, comme le disait Natacha, par la hard law, mais elles y sont aussi contraintes par la recherche de pérennité de leur activité. Donc elles veulent avoir une vision poussée de l'impact environnemental de leurs activités sur toute la chaîne de valeur. Comment ça se traduit concrètement pour vous, Jean-Luc ?
Depuis 2015, toutes les entreprises doivent publier obligatoirement leurs émissions de gaz à effet de serre sur ce qu'on appelle les scopes 1 et 2, c'est-à-dire les émissions carbone directement liées ou indirectement, mais aux consommations énergétiques, toute énergie confondue. Ça, c'était le premier point. Dans notre cas, mais pour beaucoup d'entreprises, on constate qu'aujourd'hui, ça ne suffit pas à rendre compte de l'impact de toutes les émissions. Et donc, il y a une exigence de transparence qui nécessite d'aller évaluer tout ce qui s'appelle le scope 3, c'est-à-dire l'ensemble des émissions liées à toute la chaîne de valeur de l'entreprise, et notamment à toute sa chaîne d'approvisionnement. Alors en fait, on s'y aperçoit que le poids des achats est considérable, hein, majeur, le mot est faible quand on dit majeur, et là il s'agit par exemple pour nous de tous les achats de matières premières, de tous les produits de première transformation, de tous les équipements que l'on va utiliser. C'est le pan essentiel en réalité de nos émissions carbone, et c'est bien cette partie-là qu'il va falloir mesurer et challenger.
Oui, tout à fait. Natacha parlait du rapport climat tout à l'heure et chez FH, on publie le scope 3 dit amont, donc depuis l'extraction des matières premières, transformation, mise en œuvre sur le chantier, jusqu'à la livraison de l'infrastructure ou du bâtiment au client. Un petit chiffre quand même, hein. La publication de ce scope 3 amont montre la prédominance de la chaîne de valeur, puisque, pour ne citer qu'FH, mais c'est à peu près similaire dans les entreprises du BTP, le scope 3 représente 85% du total de nos émissions de gaz à effet de serre. Et dans ces 85%, on a notamment le béton, le bitume et l'acier qui représentent 40% des émissions. Donc finalement, le rapport entre les émissions de gaz à effet de serre liées à la conso énergétique, vous parliez des scopes 1 et 2, et le scope 3 amont, eh bien, c'est un facteur 6. Donc c'est absolument énorme. Et Natacha, je crois que c'est le cas dans d'autres secteurs économiques.
Oui, tout à fait. Quand vous regardez en fait les études de l'ADEME et les publications de l'ADEME, on est autour en fait de 80% par rapport au scope 3 et en particulier le scope 3 amont. Hein. Donc c'est véritablement, vous comprenez bien que c'est là où il y a les principaux leviers d'optimisation, de réduction des émissions de CO2. Et comme ça concerne la chaîne d'approvisionnement, bien évidemment, on va se tourner vers la fonction achat pour essayer de trouver des solutions. Et là, par rapport à ça, simplement sur le rôle de la fonction achat, on a vraiment un rôle qui est majeur sur deux points clés. Vous ne pouvez pas dire que vous diminuez des émissions de CO2 si vous n'êtes pas capable de les mesurer.
Absolument.
Donc ce premier point clé, c'est la mesure. Et ensuite, le deuxième point clé, c'est l'accompagnement. Alors juste sur la mesure, je voudrais juste en fait expliquer que c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on peut imaginer de mesurer des émissions de CO2 sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement. Hein, d'accord ?
Je confirme.
Et justement, enfin, je veux dire, dans le BTP, dans le bâtiment, vous en connaissez quelque chose, puisque en fait, la RE 2020, qui va être mise en application en 2022, elle vous oblige à prendre en compte l'ensemble des émissions sur le cycle de vie du bâtiment, donc depuis la construction tout au long du cycle de vie du bâtiment. C'est une vraie difficulté d'être sur l'ensemble du cycle de vie des produits. Et du coup, les fonctions achats aujourd'hui, en fait, elles cherchent des organismes qui sont capables de les aider dans la mesure. Et vous avez beaucoup de start-up, en fait, de la tech qui aujourd'hui se positionnent et qui font des partenariats avec les directions achats pour essayer de trouver des solutions. Alors, c'est des start-up de la tech, ça veut dire qu'on va utiliser une solution digitale pour essayer de diminuer des émissions de CO2. Mais vous savez aussi que les systèmes d'information, le numérique, le digital, c'est aussi très émetteur de CO2, on est d'accord ? Et là-dessus, c'est un vrai sujet pour les fonctions achats, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait aussi pour mesurer les émissions de CO2 par rapport au système d'information de l'entreprise. Et il y a juste une entreprise, une start-up que je trouve très intéressante, parce que c'est une entreprise de la deep tech, donc du digital, qui est une entreprise à impact, qui va mesurer les émissions de CO2 pour les optimiser et les réduire. Donc elle s'appelle Digital for Better et leur outil c'est Frugger. C'est très intéressant.
Très bien. Alors, il y a une chose que je voulais... on parle beaucoup de carbone et c'est tout à fait normal et légitime. Je voudrais quand même qu'on n'oublie pas la biodiversité. Parce que, en tout cas, chez FH, on travaille la réduction de carbone, mais on essaye aussi de s'impliquer dans tous nos métiers sur la préservation de la biodiversité. Et à l'instar du calcul du scope 3 d'émissions de gaz à effet de serre amont, qui montre la prédominance de la chaîne de valeur, c'est pareil avec la biodiversité. On fait partie d'un groupe de travail pilote sur la mise en œuvre de la future, pardon pour le jargon TFND, qui veut dire Task Force on Nature-Related Financial Disclosures, donc le groupe de travail sur la publication des risques financiers liés à la nature. Et là, on cherche à mettre en place des indicateurs de suivi et de fiabilisation des données sur l'empreinte biodiversité de nos achats. Nous y reviendrons dans la troisième partie de cette émission. Jean-Luc, je me tourne vers vous. Comment une direction des achats va-t-elle initier sa mutation vers la logique bas carbone, vers l'économie bas carbone ?
Bon, c'est d'abord peut-être fondamentalement d'abord en renforçant certaines capacités analytiques, des capacités de modélisation, parce qu'on le voit bien, on est quand même en train d'attaquer une matière qui n'est pas encore structurée. Alors je sais bien qu'il y a urgence, et en même temps on est face à une urgence, et en même temps il faut qu'on construise aujourd'hui un certain nombre de standards, un certain nombre de modélisations. Donc je pense que il y a d'abord des bons profils, quoi. Il faut organiser ça. C'est aussi une clarification de la feuille de route. Il faut que clairement cette décarbonation et puis tous les attendus du développement durable, de la responsabilité des entreprises soient clairement explicités pour les achats. Il faut que ce soit dans le management par objectif, très clairement, parce qu'encore une fois, les achats, c'est une machine peut-être bête et méchante, ou a été jugée comme ça. En tout cas, elle a cette capacité de délivrer. Donc il faut introduire effectivement les délivrables, les attendus clairement dans le pilotage. Alors il y a beaucoup d'outils qui existent aujourd'hui. Si on prend notre cas chez FH, nous on a un reporting carbone par exemple qui est déclinable jusqu'au niveau d'un chantier, jusqu'au niveau d'un projet, voilà, et sur toutes les business units de l'entreprise. C'est important. On a aussi un autre produit par exemple qui s'appelle EcoSource, et EcoSource c'est notre outil de comparaison de toute la performance environnementale des produits,
donc multicritères,
c'est-à-dire qu'on va y introduire aussi la qualité de l'air, la traçabilité des produits, évidemment la recyclabilité ou la pression sur les ressources en eau,
le Made in France ou Made in Europe. Aussi,
effectivement, et même l'achat local, c'est-à-dire que oui. on va descendre jusque-là et ce qu'on peut mettre en avant. Et en fait, un autre des aspects pour les achats, c'est aussi de jouer de ces effets de levier. Alors, il y a des effets de levier internes. On a par exemple un fonds d'arbitrage carbone, mais vous le connaissez bien, Valérie, qui permet effectivement de financer, en tout cas d'aller cofinancer, de participer de temps en temps dans des écarts de prix qui pourraient apparaître dans des solutions carbone par rapport à des solutions plus conventionnelles.
En fait, l'idée d'EFAS, vous parlez du fonds qui s'appelle EFAS, Fonds d'arbitrage carbone énergie, c'est de faire un effet de levier en absorbant le différentiel de coût entre une solution A, innovante, bas carbone, mais peut-être un peu plus chère parce que pas tout à fait industrialisée, et la solution standard classique qui, elle, est industrialisée, pas très chère, mais malheureusement carbonée. Donc on lève le verrou financier.
Voilà, et c'est de temps en temps le coup de pouce dont on a besoin pour industrialiser des solutions qui sont bas carbone, mais qui ne le sont pas encore.
Ça veut dire, Jean-Luc, que votre direction, finalement, elle donne sa chance aux produits proposés par des fournisseurs qui se sont engagés dans le bas carbone.
C'est tout l'enjeu. C'est là qu'est la prise de risque, d'ailleurs.
Exactement.
C'est d'aller vers où, comment, et s'assurer qu'effectivement, on va promouvoir des solutions qui sont durables parce qu'elles seront industrialisables, elles pourront prendre place dans la chaîne demain, dans la chaîne d'approvisionnement. Puis c'est aussi aujourd'hui un des vrais enjeux pour les achats, c'est d'aller travailler, de servir des effets de levier externes. C'est-à-dire que les fournisseurs ont besoin aujourd'hui d'un certain nombre de projets et qu'on promotionne un certain nombre d'idées qu'ils veulent développer et qui participeront à leur développement aussi et
Exactement.
À leur croissance.
Exactement. Finalement, on les aide aussi à faire leur premier proof of concept parce que vous vous intéressez à leurs innovations et vous pouvez en parler, les prescrire en interne.
Oui, ou participer même au cahier des charges, c'est-à-dire leur proposer effectivement des situations, leur proposer un certain nombre de groupes de on a eu des aujourd'hui un groupe de travail qui par exemple avec des fabricants de batteries, avec des fabricants de matériel travaille sur comment électrifier aujourd'hui un certain nombre d'engins sur les chantiers.
Alors, nous avons justement eu l'opportunité d'interviewer le PDG d'une entreprise de location de matériel, c'est Kiloutou. Le PDG, c'est Olivier Collot.
Olivier Collot, bonjour.
Bonjour.
Kiloutou, c'est la deuxième entreprise spécialisée dans la location de matériel dans le domaine du bâtiment, des travaux publics et de l'événementiel. Le matériel d'ailleurs des travaux publics, les matériels de chantier que louent les entreprises de BTP, peut avoir un impact extrêmement fort sur les émissions de gaz à effet de serre. Alors une première question, comment une entreprise comme Kiloutou prend-elle en considération dans son business model les stratégies carbone de ses clients ?
Comme vous l'avez dit, la transition environnementale est un sujet majeur dans notre secteur d'activité. Le secteur de la construction et du bâtiment au sens large, c'est à peu près un tiers des émissions de gaz à effet de serre. Et en particulier, le matériel de chantier et les véhicules ont un impact important sur ces émissions, puisque les émissions liées au carburant représentent pas loin de 45% des émissions directes de gaz à effet de serre de nos clients entreprises de construction. Donc chez Kiloutou, nous, on a décidé de s'impliquer plus particulièrement dans cette transition environnementale en tant qu'acteur de cet écosystème. On a pris des engagements, puisqu'on on a communiqué en début d'année 2021 nos ambitions carbone avec une réduction de 40% de nos émissions directes à horizon 2030 et puis une ambition de viser la neutralité carbone en 2050. La façon dont on l'opère ou la façon dont on veut y arriver, alors c'est d'une part en s'appuyant sur notre métier de base qui est la location. Louer du matériel, c'est le partager, c'est le mutualiser, c'est optimiser son utilisation. Et donc, en ça, c'est déjà durable. On a calculé qu'un matériel loué, c'était deux fois moins de CO2 émis qu'un matériel qui était possédé, tout simplement parce qu'il a utilisé un maximum de fois. On contribue aussi à cette transition carbone en investissant de plus en plus dans des matériels qui eux-mêmes fonctionnent avec des énergies qui sont des alternatives au diesel. Donc ça peut être du matériel électrique, du matériel hybride, ça peut être l'usage de biocarburant. Et on a d'ailleurs lancé il y a quelques mois maintenant une gamme matérielle qui est entièrement dédiée au matériel à énergie alternative. C'est la gamme Kiloutou Impact avec un catalogue qui est dédié et une flotte de 3000 matériels. Donc voilà un peu comment chez Kiloutou on adresse ce sujet qui est un sujet central pour nous.
Et concrètement, est-ce que vous pourriez nous donner finalement des exemples de l'adaptation de votre offre ? On l'a dit, on commence à l'évoquer, aux contraintes carbone et climat de vos clients.
De façon très concrète, on le fait donc grâce au matériel à énergie vertueuse qu'on rentre dans notre gamme et on va continuer à le faire sur les années prochaines. Notre enjeu est vraiment de migrer vers une flotte qui soit de plus en plus décarbonée. On le fait aussi de façon très en partenariat avec nos clients et notamment nos plus gros clients qui sont les acteurs majeurs de la construction en France. On le fait en travaillant main dans la main sur leur plan d'action carbone. Si je prends l'exemple d'Eiffage, qui est un des gros acteurs qui compte dans le BTP et avec qui on travaille très bien, on a travaillé, et puis je peux le dire, parce qu'ils m'ont autorisé à partager ça avec vous, on travaille avec eux sur plusieurs sujets. On a d'abord fait un calcul assez fin du bilan carbone de leur location de matériel, ce qui nous a permis d'identifier les matériels de chantier qui étaient les plus émissifs chez eux et donc de leur proposer des alternatives. On a mis en place un guide des matériels alternatifs, donc en comparant de façon extrêmement fine les performances techniques entre le matériel conventionnel, le matériel diesel et son alternative fonctionnant avec une énergie décarbonée. Et comme tout ça doit être aussi extrêmement expérimental, on identifie des chantiers tests où on va pouvoir expérimenter grandeur nature ces matériels alternatifs. C'est très important pour que tout ça fonctionne et pour que cette transition fonctionne bien, il faut clairement s'assurer que le matériel est adapté à ses usages et que l'appropriation est complète par les équipes de chantier. Donc voilà, c'est des choses qui sont concrètes, qui sont très pratico-pratiques, mais je pense que c'est comme ça que ça fonctionnera, et notamment ça fonctionnera en travaillant ensemble sur le sujet. C'est ce qu'on fait très bien avec nos fournisseurs et avec nos gros clients.
Eh bien écoutez, Olivier Collot, merci beaucoup d'avoir repris le temps de répondre à nos questions pour cette nouvelle émission des Villes et des Hommes. Je rappelle que vous êtes le président de Kiloutou, Olivier Collot, merci beaucoup.
Alors, Kiloutou est un groupe européen, c'est intéressant parce que la fonction achat va connaître encore une nouvelle révolution, la lumière des enjeux du Green Deal européen et de l'arrivée de la taxonomie verte. Troisième partie, fonction achat et développement durable en Europe.
Des villes et des hommes, le débat, troisième partie.
Alors Natacha, cette nouvelle direction des achats, dont on a dit qu'elle était décloisonnée, rompue au sujet du carbone, de la biodiversité, qui est capable de cartographier ses fournisseurs de toute taille, c'est un peu le rêve, non ?
Oui, c'est effectivement un peu le rêve. Mais en fait, on va complètement changer de paradigme pour la fonction achat. C'est peut-être un peu provocateur ce que je dis, mais on va aller vers une fonction achat qui, au final, va moins acheter, à proprement parler. Il y a deux grandes raisons par rapport à ça. La première grande raison, c'est que la fonction achat, elle va être au cœur des stratégies 3R, donc tout ce qui est réduire, réutiliser, recycler. Un bref exemple, pour aller vite, et qui montre l'importance du rôle entre les achats, la R&D et les fournisseurs. C'est Sagemcom. Sagemcom, justement, ils ont décidé de travailler à trois pour réduire, en fait, sur leur dernier décodeur, c'est un leader dans les terminaux, c'est une entreprise française, pour réduire l'utilisation, en fait, du plastique classique. Ils ont été vers 100% de plastique recyclé, ils ont diminué la taille de la coque, du coup, celle des emballages, ils ont pu mettre en fait plus de décodeurs par palette. Résultat, c'est une baisse du coût total. Et puis, c'est 186 000 tonnes de CO2 qui sont économisées. Très bon exemple. On voit que l'écologie et l'économique sont réconciliables.
Exactement.
En fait, il y a une dynamique systémique qui est managée aujourd'hui par les achats. Ça redéfinit évidemment les finalités de la fonction achat, mais aussi ça redéfinit les activités. Et aujourd'hui, tout ce qui va être tourné, il y a tout un travail des acheteurs vers l'écosystème, la nécessité aujourd'hui de s'assurer que les petites et les moyennes entreprises vont bénéficier aussi de ces opportunités de croissance. Et pour ça, il faut transmettre des savoirs, des savoir-faire. Il y a besoin de partager, on l'a vu, hein, la loi a imposé un certain nombre de choses aux grandes entreprises qui sont tout de suite été très concernées. Mais il y a une logique aujourd'hui d'aller élargir ça. Et les achats, ben, ils sont au cœur du système pour pouvoir définir un petit peu ou co-définir comment cette création de valeur, comment ce partage de cette valeur doit se faire.
Alors Jean-Luc, je vous interromps, pardon, mais vous étiez vu que traditionnellement comme un champion du neuf, la fonction achat, c'est on achète du neuf, et finalement vous allez être au cœur de l'économie circulaire. Quelle est la seconde raison finalement pour laquelle la fonction achat achètera moins, Natacha ?
Alors, cette seconde raison pour laquelle en fait la fonction achat va moins acheter, c'est qu'on va être au cœur en fait de l'économie de l'usage. Et l'économie de l'usage, juste pour vous donner un exemple, le World Economic Forum nous dit à horizon 2030, tous les produits seront des services. En fait, une entreprise ne va plus acheter un produit, elle va acheter une solution. Et grâce au capteur, grâce à l'Internet of Things, donc l'Internet des objets, on va pouvoir en fait rendre les objets plus intelligents, capter de l'information et permettre aux fournisseurs de donner en fait des produits qui vont être beaucoup plus adaptés par rapport à des enjeux d'émissions de CO2, mais aussi beaucoup plus adaptés par rapport aux usages. On va aller vers une personnalisation. À nouveau, un exemple rapide. Vous imaginez un logisticien qui décide demain de mettre des luminaires LED sur l'ensemble de ses entrepôts. Ça coûte très cher, c'est des très gros investissements. Avec cette solution-là, il n'a plus besoin d'investir. Il achète une solution light as a service, c'est-à-dire qu'il n'investit plus, il n'y a plus de capex, il n'y a plus de maintenance. C'est le fournisseur qui va s'occuper de tout ça. Et le fournisseur est capable, grâce à des capteurs, de moduler la luminosité en fonction du passage des Fenwick, en fonction de l'activité dans les entrepôts. Donc plus de sécurité, une meilleure qualité de travail pour les salariés. Et puis à nouveau, des économies énergétiques et donc moins d'émissions de CO2. Donc on voit qu'à nouveau, on réconcilie de l'économique et de l'écologique.
Alors moi, j'ai une question à vous poser. Quid des rémunérations dans tout ça ? Les acheteurs, traditionnellement, étaient d'abord évalués eux-mêmes sur leur capacité à réaliser des économies financières. Alors même si ça a déjà pas mal évolué, mais comment voyez-vous les choses ?
Alors, ça a beaucoup évolué. Et c'est pareil, Jean-Luc pourra en témoigner aussi hein, chez FH. Hein, c'est fini dans beaucoup d'entreprises, hein, cette logique où, grosso modo, on dit un acheteur, grosso modo, tu vas être rémunéré en fonction des économies que tu fais sur ta catégorie d'achat. Non. Dans de très nombreuses entreprises, la part variable, elle est indexée par rapport à de la performance globale d'entreprise, par rapport à la performance globale d'une direction achat. Puis il y a des approches qui sont très intéressantes et que je trouve vraiment parlantes. Je vais vous donner l'exemple de Spadel. Spadel, c'est une entreprise belge qui fait les... Alors en France, on la connaît sous les eaux de Vattenvillers ou Carola, les eaux de Spa. Et en fait, ils ont mis en place une part variable des acheteurs qui correspond en fait, qui va être indexé par rapport à la baisse des émissions de CO2 sur sa catégorie d'achat.
Rêve.
C'est très vertueux.
Ah
c'est
oui,
très vertueux.
Absolument.
Oui, tout à fait.
Jean-Luc, finalement, aujourd'hui, vous allez tirer profit de toutes les évolutions technologiques qui profitent à la durabilité, si je fais un peu court, hein, notamment sur les matériaux bas carbone, l'intelligence artificielle, la robotique, etc.
Ah oui, c'est effectivement tous ces outils, toutes ces méthodologies, ces puissants générateurs de croissance et de basculement dans cette économie bas carbone. Donc, on va devoir exploiter tout ça. Alors, Il y a quand même, il faut être honnête, quand on parle là-dessus, il y a quand même des enjeux managériaux, parce que ce sont des ça nécessite une appropriation, une adaptation qui est pas si évidente, hein, dans tous ces outils-là. On sait qu'on a beaucoup de data, on sait qu'il y a d'autres façons de travailler, et c'est aussi une adaptation pour les fournisseurs. Vendre du service aujourd'hui, enfin, notre économie, elle était rompue à une croissance assez classique. C'est-à-dire que les fournisseurs viennent nous voir globalement pour avoir plus de volume. Quand on leur explique qu'il y a d'autres choses qu'on peut transformer et qui ont plus de valeur et qui pourraient nous vendre aussi dans le service, dans un accompagnement, apporter de l'intelligence, justement pour aller travailler toutes ces émissions carbone, ça prend un certain temps. Mais on le voit, ça bascule. Enfin, l'intervention de Nicolas Collot l'expliquait aujourd'hui, la location de matériel, elle est en train d'évoluer considérablement, la notion même de matériel. Donc c'est sûr qu'on consommera moins, c'est sûr qu'on va consommer plus d'intelligence. Ça, c'est évident.
Plus
en tout cas, que l'intelligence, elle ne sera pas mise simplement pour réduire le coût des produits et elle va être apportée sur le carbone. Et surtout,
un grand vivier d'innovation. Je voulais vous donner un exemple. C'est grâce à la direction des achats qu'on a rencontré une start-up capable de capter le carbone par cryogénie et qu'on est en train aujourd'hui de capter ce carbone sur notre usine de chaux dans le Nord-Pas-de-Calais, qui est soumise aux quotas européens d'émissions et qui représentait quand même près de 20% des émissions de gaz à effet de serre sur le scope 1 et le scope 2. Donc aujourd'hui, finalement, c'est pas un directeur de l'innovation qui nous a amené ça, c'est la direction des achats qui a repéré et qui nous a amené la connaissance de ce savoir-faire. Je voulais quand même en témoigner. Finalement, votre rôle aujourd'hui, c'est de motiver les fournisseurs, c'est d'aller libérer la parole pour qu'ils puissent promouvoir l'innovation avec vous.
Ah oui, cette veiller à ce que ces processus-là se mettent en place intelligemment, correctement, qu'ils soient ouverts aux différentes expertises nécessaires, c'est le rôle des achats. Oui, ça le rend le métier passionnant d'ailleurs. Il y a vraiment un rôle de mise en relation, souvent avec des choses très différentes. Natacha le disait, il y a des startups aujourd'hui qui viennent interpréter de l'information et dont on a besoin, même dans des relations entre deux grandes entreprises. Enfin, dans le monde des déchets, c'est évident, et dans d'autres mondes, on sent cette nécessité-là.
Alors, on arrive bientôt au terme de cette émission. Je voudrais qu'on termine quand même, pardon, hein, vous le savez, c'est un petit peu ma marotte, mais qu'on termine sur la conduite du changement dans l'entreprise au travers du cadre européen qui est en train de muter, puisque l'Union européenne a choisi de s'engager pleinement dans la durabilité de son économie, affirmant ainsi un projet qui est le plus ambitieux au monde. C'est passé un petit peu sous les radars à cause du Covid. Je crois que le grand public n'en a pas forcément toujours eu conscience parce que le moment était à la crise sanitaire et on n'a pas vraiment parlé de la taxonomie européenne. Pourtant, malgré son titre un petit peu rebutant, je l'avoue, c'est une révolution, c'est sans doute une révolution plus importante d'ailleurs que l'entrée en vigueur de l'euro. Alors, pour faire court, on en avait parlé dans une émission précédente, la taxonomie européenne, elle va classer les activités économiques en fonction de leur contribution à 6 grands objectifs de développement durable, ce qui permet d'ailleurs de donner une définition commune du développement durable, donc des objectifs liés au changement climatique, des objectifs qui sont liés à la protection de la ressource en eau, à l'économie circulaire, à la prévention des pollutions, mais également à la préservation de la biodiversité. Donc c'est vraiment une vision holistique du développement économique durable et le but, c'est que les flux financiers publics et privés soient drainés préférentiellement vers ces activités économiques qualifiées de vertes et qui sont censées d'ailleurs garantir une meilleure maîtrise des risques aux acteurs financiers, prêteurs, investisseurs. Alors, dès 2022, les entreprises de plus de 500 salariés qui sont soumises à une obligation de déclaration performance extra-financière devront publier la part de leur chiffre d'affaires qui est alignée, c'est-à-dire qui contribue substantiellement à au moins un des 6 objectifs environnementaux sans nuire à l'un des objectifs. Hein. Il faut non seulement avoir une contribution, mais ne pas abîmer, si je puis dire, la contribution aux autres objectifs, et également un socle social, puisque le respect des règles sociales de l'OIT sont également obligatoires. Alors, sinon, l'on ajoute à l'arrivée de cette taxonomie quelque chose qu'on n'a pas entendu hein, depuis l'avènement du libre-échange dans le monde, c'est un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, c'est-à-dire un système de taxe carbone aux frontières de l'Union européenne, qui sont censés permettre un équilibre concurrentiel à l'intérieur et à l'entrée de l'Union européenne. C'est notamment pour lutter contre ce qu'on appelle le phénomène de fuite de carbone à l'étranger. Concrètement, si vous délocalisez une production en Asie vers un pays peu regardant sur les conditions environnementales, bah ça évite de comptabiliser les émissions de gaz à effet de serre sur votre territoire. En revanche, si ce produit est taxé lors de son entrée dans l'Union européenne, eh bien, ça n'a plus aucun intérêt d'avoir été l'acheter. Alors, Natacha, comment ces deux mécanismes, à la fois la taxonomie en interne de l'Union européenne et le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières à l'entrée de l'Union, sont-ils susceptibles d'impacter les achats?
Alors, s'agissant de la taxonomie, l'article 8, en fait, de cette taxonomie, elle exige que les entreprises, donc, elles déclarent, elles publient la part durable de leur chiffre d'affaires, mais surtout, elles publient, en fait, leurs investissements et leurs dépenses orientées par rapport à des activités durables. Et pour moi, c'est là le rôle de la fonction achat. Sur cet aspect-là, le rôle de la fonction achat va être déterminant. Vous comprenez bien que dès lors qu'on parle de dépenses, la fonction achat, son rôle va être déterminant. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'il va falloir, bien évidemment, qu'on trouve des fournisseurs qui soient capables de nous aider dans cette démarche à un moment donné pour rendre nos activités bas carbone, pour rendre nos activités durables. Il va falloir que ces fournisseurs-là, justement, j'aimais bien le terme que vous avez utilisé, qu'on arrive à les motiver pour nous accompagner dans cette transformation. Et j'étais la première en 2011 à publier un article de recherche en disant il faut motiver ces fournisseurs si on veut être capable d'aller travailler ensemble sur de l'innovation ensemble. C'est déterminant. Et ça vaut le coup aussi de se reposer la question, si on a parlé des modes de rémunération des acheteurs, sur les modes de rémunération des fournisseurs. Un fournisseur, s'il nous accompagne dans cette transformation, ça veut dire aussi qu'il serait légitime qu'il y ait aussi un partage des économies générées par rapport à un certain nombre de nouvelles technologies qui peuvent être apportées. Je prends l'exemple des contrats de performance énergétique. C'est aussi logique peut-être que par rapport en fait à des économies générées sur la performance énergétique, il y a un fournisseur qui puisse aussi en avoir à un moment donné une partie, ce qu'on appelle des contrats de partage de gains. Au niveau mondial, c'est moins de 30% d'entreprises qui utilisent des contrats de partage de gains. Il y a vraiment des pistes qui sont très intéressantes. Maintenant, rapidement, sur le mécanisme d'ajustement carbone, vous l'avez déjà beaucoup expliqué, donc je ne vais pas revenir dessus longtemps. Simplement que les gens ont bien compris que, automatiquement, ce mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, ça va favoriser le fait que la fonction achat va pouvoir, bien évidemment, acheter en Europe auprès de fournisseurs européens.
Et réindustrialiser l'Europe, vous pensez ?
Alors, ça, c'est à mon sens, c'est un autre débat, on pourra en discuter. Par contre, le rôle des achats plus globalement, par rapport au Green Deal, où vraiment là, je pense qu'à nouveau, il y a un rôle qui est vraiment important, c'est que quand vous regardez l'ensemble du Green Deal, les achats publics, on n'a pas beaucoup parlé d'achats publics aujourd'hui, les achats publics, ça va devenir déterminant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand vous regardez les obligations qui sont proposées par le Green Deal, je reprends le texte, c'est une obligation de rénover tous les ans au moins 3% de la surface totale des bâtiments publics, avec un objectif de 49% d'énergie renouvelable. Donc, les acheteurs publics, ils vont avoir un rôle déterminant. De la même façon, l'acheteur immobilier, l'acheteur de facility management, il va aussi avoir un rôle déterminant. Et je pense qu'il va falloir qu'on en recrute de plus en plus et qu'il va falloir aussi qu'on les forme. Parce que, à nouveau, dans ce grand Green Deal européen, en 2026, il va y avoir la création d'un marché carbone par rapport à tout ce qui est chauffage des bâtiments. Alors là, pour le coup, pour le bâtiment, pour votre secteur, ça va être des superbes opportunités en termes de rénovation.
Oui. Donc tout ça... Mais il faut organiser l'écosystème et comprendre qu'on a une relation gagnant-gagnant avec nos fournisseurs.
Exactement.
Sur ce sujet.
Exactement.
Alors, Jean-Luc, vous êtes président du Conseil national des acheteurs, je disais tout à l'heure. Est-ce que la taxonomie, le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières sont craints par les directeurs achats? Quelle est votre vision là-dessus?
Alors ma vision, c'est que c'est peut-être la bonne nouvelle, c'est qu'il y a aujourd'hui une véritable convergence entre les enjeux de souveraineté et les enjeux carbone. Et les enjeux de RSE globalement. Et ça, c'est formidable parce que c'est vraiment, effectivement, un bon prétexte pour repenser la réindustrialisation de nos territoires. Le Conseil national des achats, lui, s'est engagé parce que les acheteurs étaient conscients de cette responsabilité depuis, et effectivement, Natacha le disait, de le Covid-19 a encore plus amplifié ça en se disant, voilà, on ne peut pas simplement être efficace dans l'exécution, il faut quand même qu'on propose un certain nombre de choses et qu'on soit acteur des transformations qui ont lieu. On s'est engagé avec France Industrie, avec la direction générale des entreprises, dans un travail sur la relocalisation qu'on appelait comme ça. Alors le chemin est long, il y a des premiers résultats, mais effectivement, il y a une approche quand même assez laborieuse. parce qu'il y a un champ des possibles très large là aussi. Hein. Parce que quand on parle de relocalisation, il faut considérer qu'il y a l'Europe, il peut y avoir la France, ça peut être national, mais c'est aussi très territorial et très régional. Donc il faut pouvoir peser tout ça. Moi, je voulais juste mettre en avant une étude de Deloitte qui montrait effectivement qu'aujourd'hui, si 3,5 milliards de production étaient réinternalisées en France, ça créerait finalement que 7 000 emplois supplémentaires. Ça paraît pas gigantesque, mais elle contribuerait à éviter plus de 5 millions de tonnes de carbone.
Et là, c'est énorme.
Et là, c'est énorme, effectivement. Et là, effectivement, on s'aperçoit que ça a un impact très, très direct et la taxonomie, elle devrait mettre ça au jour, hein, évidemment. Et c'est d'ailleurs l'autre enjeu sur lequel on s'est engagé sur le CNA, parce que on considère, et on l'a vu, on manque de modélisation, on manque de moyens de mesure, et donc il y a un travail qu'on va mener avec France Industrie là, sur la modélisation et le calcul du coût complet.
Ah oui,
prenant
important.
En compte toutes les externalités négatives pour arriver effectivement à comptabiliser le carbone, le coût social, les risques de pénurie, enfin tout ce dont on a parlé là. Il faudrait qu'on ait des outils comme ça, il faudra qu'on en ait quelques-uns. Donc nous, on commence ce travail-là. Alors, je sais bien qu'il y a urgence et qu'il faudrait aller très vite. Simplement,
les acteurs sont très mobilisés. Moi, c'est ce que j'entends. Il y a quand même une convergence et puis un cadre européen très, très favorable à toutes ces coopérations. Natacha, peut-être un mot de la fin. On arrive déjà au terme de notre émission. Ça va très vite.
Alors, le mot de la fin, il va être très court. Je vais me permettre de citer, en fait, Henri Bergson, le philosophe, qui nous dit « L'avenir n'est pas ce qui va arriver, mais ce que nous allons en faire ».
Je vous remercie. Alors, peut-être un mot juste pour nos auditeurs. Si parmi vous, il y a de jeunes, des jeunes auditeurs qui cherchent encore leur voie professionnelle, et si vous avez envie de contribuer à l'efficacité de la démarche opérationnelle des entreprises en matière de développement durable, la fonction achat peut vous intéresser, vous l'avez entendu. Hein. Il y a des formations de très haut niveau qui existent, des profils nouveaux s'y épanouissent, ça on l'a bien compris, hein, puisque la pluridisciplinarité devient la règle dans la fonction achat. Et puis je vous rappelle aussi l'engagement fort du Conseil national des acheteurs dans les enjeux de durabilité. Il y a un site internet qui reprend énormément d'études et qui reprend les travaux du CNA. Voilà, et notre prochaine émission sera consacrée à un autre sujet tout aussi passionnant qu'est le génie écologique. Je vous remercie et n'oubliez pas que vous nous retrouvez sur le site internet de Radio Immo en podcast.
Des villes et des hommes, une émission proposée en partenariat avec Eiffage.